beaucoup. Oui, merci de nous accueillir pour évoquer quelques aspects d'un terrain sur lequel nous travaillons, Corinne et moi, depuis 3 ans de façon épisodique. Alors, on a essayé de centrer dans la mesure de nos moyens sur la problématique de l'imaginaire. De quoi s'agit-il? Je commencerai volontiers par citer quelques lignes d'Albert Thibaudet, qui est le grand critique littéraire de l'entre-deux-guerres, à propos de Flaubert, et en particulier le début de son chapitre consacré à Madame Bovary. Je vais expliquer très vite de quoi il s'agit. Donc Albert Thibaudet, il est certain qu'il y eut une vraie Madame Bovary, Madame Delamare, née couturier, décédée le 7 mars 1848 à Ry, et que d'autres ont posé pour certaines attitudes des personnages. Mais, ajoute Thibaudet, la chronique locale s'est emparée de tout cela, a donné des précisions fantaisistes, a formé une légende, et dans le village de Ry, c'est en Normandie, Seine-Maritime, les marchands de cartes postales vendent aux touristes tout le décor de Madame Bovary, c'est donc de cela qu'il s'agit, comme ils pourraient vendre à Tarascon la maison du Baobab. Donc ce qu'on aimerait aborder, sans doute trop rapidement aujourd'hui, a à voir avec les structures de l'imaginaire littéraire, et peut-être à les structures de l'imaginaire occidental ou national, celui du 19e, peut-être celui d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans Madame Bovary, sous-titré « Mœurs », comme on dit à Nîmes chez moi, et « Mœurs », comme on dit ici, de province, les pays les plus exotiques, l'Orient, les Outre-mer, les îles de Paul et Virginie, bon, sont des utopies, rêvé, fantasmé par Emma. Ensuite, il y a Paris. Paris et l'aristocratie qui pourrait être également l'objet de rêveries sociologiques, érotiques. Bon. Puis il y a Rouen, qui est le lieu où elle rencontre régulièrement son amant, Léon. Et puis il y a Ry, enfin, Yonville-l'Abbaye, dans le roman, Yonville-l'Abbaye. Donc là, on a une structure de l'imaginaire géographique, topographique, toponymique, qui est peut-être encore celui de bien des Français, hein, le village, la ville de province, la capitale, et puis les Outre-mer. Bon. Et alors, le problème, vous le savez bien, d'Emma, c'est que Ry n'est pas Paris. Ry, Paris. Bon, c'est ça son problème. Pour dire, par ce jeu de mots forcé, que nous allons centrer sur l'imaginaire topographique et toponymique de ce petit village qui serait l'équivalent, vous l'avez compris, de Yonville-l'Abbaye dans la réalité référentielle et qui s'appelle Ry, R-Y, qui existe donc, qui est un tout petit village de 500 habitants à une petite dizaine, à quoi, 20 km de Rouen. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Ry? À Ry, il y a Madame Bovary, forcément. Parce que, c'est pas nous qui le disons, c'est Corinne va en parler dans quelques secondes, parce que ce village, finalement, s'est emparé de la possibilité de confondre l'ordre de la fiction et l'ordre de la réalité, et par un coup de force symbolique, disons, a réussi à imposer l'idée que Yonville-l'Abbaye, c'était Ry, puisque Bovary, Ry. Bon. Puis peu comme les Finlandais ont réussi à imposer l'idée que telle ville de Finlande était la ville d'origine du Père Noël. Bon. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on va parler du champ littéraire. On va sortir du texte, à proprement parler, et parler du champ littéraire. Alors juste deux références pour placer vraiment très succinctement nos partis pris théoriques, disons. Bon. Lucien Febvre, cofondateur de l'École des Annales, dans ses « Combats pour l'histoire », publié lui aussi dans l'entre-deux-guerres, se plaignait, Lucien Febvre, donc, que les jeunes gens de son époque, je cite, « soient façonnés intellectuellement par une culture à base unique de textes, d'études de textes ». Et alors, il est désigné un peu méchamment, ironiquement ou lugubrement, comme étant des textuaires, des textuaires. Bon, il ne connaissait pas encore le structuralisme, Febvre, je ne sais ce qu'il aurait dit. Des textuaires, donc quelque chose qui serait mortifère de rester dans l'enclos du texte, ou qui serait funèbre. Bon, donc nous sortons le texte de l'univers de papier, bien entendu, puisqu'on va voir qu'à Rie, il y a des transpositions à trois dimensions. Donc c'est pour ça qu'on est assez heureux que le CRAL nous invite à présenter quelques hypothèses. Une projection à trois dimensions de Madame Bovary. Deuxième référence pour aller très vite, Pierre Bourdieu, Les règles de l'art, page 243. L'idéologie de l'œuvre d'art, inépuisable. Masque par le quasi-dévoilement qui s'observe souvent dans les choses de la foi, que l'œuvre est bien faite non pas deux fois, une fois par l'auteur, génial, une fois par le lecteur, coopératif, l'œuvre est bien faite non pas deux fois, mais 100 fois, 1000 fois, je ne prêche que des convertis évidemment, par tous ceux qui s'y intéressent, qui trouvent un intérêt matériel ou symbolique à la lire, à la classer, à la déchiffrer, à la commenter, à la reproduire, à la critiquer, à la combattre, à la connaître, à la posséder. C'est un élément de cette réappropriation villageoise, locale, populaire, de la littérature. On ne veut plus légitime, Madame Bovary Flaubert, qu'on souhaiterait vous parler. C'est à toi.
Alors, je rajouterais volontiers un autre verbe à la citation de Bourdieu, ce serait peut-être de recréer l'œuvre, de l'interpréter, de la recréer. En fait, Harry, petit exposé factuel, je dirais, il y a trois temps qui scandent un petit peu ce transfert de la fiction dans la réalité locale. Il y a le village, tout d'abord, qui, le début du siècle dernier, maintenant on peut dire, est l'objet de tourisme, de villégiature, avec à l'appui des cartes postales qui situent effectivement le lieu du roman dans ce village, suite à un article dont Jean-Marie parlera tout à l'heure, d'un critique littéraire fameux qui s'appelle Georges Dubosc, et qui a mené une enquête et qui prétend qu'effectivement c'est Rie, le village référentiel, et non seulement Rie comme lieu, mais également les personnages du roman, puisque dans ce village, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un fait divers concomitant à l'écriture du roman et qui ressemble en beaucoup de points à l'histoire. Donc, évidemment, on est dans un univers référentiel et la revendication du référentiel par rapport au roman. Ensuite, il y a un deuxième temps. Donc, il y a évidemment dans cette vie villageoise le souci aussi du développement du village, puisqu'on est déjà en plein essor du tourisme. Et là, il y a quelqu'un, une figure locale, qui s'empare de cette histoire et qui en fait son affaire, qui va y consacrer sa vie. C'est un horloger artisan, autodidacte, il a un certificat d'études, mais il est amoureux de la belle littérature. Il était d'ailleurs amoureux de son institutrice aussi, avec laquelle il échangeait des lettres de correspondance quand il était jeune adolescent, et il va faire de cette histoire le fer de lance du développement touristique du village. Évidemment, on est à une période où l'exode rural a craqué et il est important que le village soit reconnu. Donc il va fonder, en fait, fort de ses compétences d'artisan, il va fonder un tout petit musée, un musée privé. Et avec la particularité étonnante et amusante, un peu, on dirait aujourd'hui, kitsch ou désuète, hein, de représenter les principales scènes du roman sous la forme d'automates miniatures, hautes d'une quinzaine de centimètres, et qui sont...
Je donne des photos, hein, je vais circuler, voilà, bravo.
Qui sont exposées dans un ancien pressoir qu'il a transformé en musée. Donc, voilà, donc ça c'est la galerie. Troisième temps de l'appropriation, interprétation, appropriation, recréation du roman, dans la réception, je dirais, populaire ou ordinaire, c'est presque 15 ans après, 20 ans après, la création cette fois-ci par des femmes d'agriculteurs des environs, toujours dans l'idée, l'objectif de développer le tourisme et un réseau de gîtes ruraux, et donc d'attirer, d'éveiller la curiosité des visiteurs, de mettre en place un circuit dans le paysage lui-même, dans le paysage local, un circuit qui s'appelle, qui va s'appeler dans un premier temps sur les pas d'Emma, et puis ensuite au pays de Madame Bovary. Donc ces femmes ont monté un projet, recherché des financements, se sont lancées presque dans la politique locale, et ont mis en place le circuit au pays de Madame Bovary. Alors qu'est-ce qui se passe dans le circuit? Ben, le circuit, tout simplement, montre aux visiteurs des lieux qui sont, alors, phénomène d'inversion, on pourrait dire, hein, par rapport à ce que Flaubert a fait dans un premier temps, c'est-à-dire que des éléments fictionnels vont se retrouver transplantés littéralement dans le paysage local.
Voilà, donc vous voyez ce qui vous intéresse, c'est en production et en réception, ça c'est notre cahier des charges, mais évidemment une demi-heure, on ne va pas approfondir chaque aspect, c'est une étude de pragmatique, en fait, c'est les usages sociaux de l'imaginaire littéraire dans un champ littéraire qui est celui de la campagne normande, hein, c'est l'extension du champ, si j'ose dire, de la littérature, hein, c'est le Flaubert au champ. Bon, alors, juste peut-être encore un mot pour dire comment cette affaire, qui est assez classique, encore que la caractéristique de Ry, village, galerie, circuit, c'est l'hyperfocalisation sur le texte du roman, hein, sur le roman, avec une euphémisation ou un éloignement très très réel de Flaubert, par exemple. C'est pas Flaubert qui est présent à Ry, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, c'est vraiment le texte du roman. Bon. Alors, peut-être un mot sur la montée en puissance de ce paradigme indiciaire et mimétique qui consiste à très 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 lié à l'école de Lançon, hein, enfin les avatars du lançonisme, c'est-à-dire la recherche des sources, l'identité entre le référent matériel ou le référent humain et le personnel romanesque. Bon, donc ça c'est un avatar, on pourrait dire, vraisemblablement, de cette épistémologie. En 1857, Flaubert écrit à son ami Émile Caillaud: non, monsieur, aucun modèle n'a posé devant moi. Madame Bovary est une pure invention. Tous les personnages de ce livre sont complètement imaginés et Yonville-l'Abbaye lui-même est un pays qui n'existe pas plus que la Rieule, etc. Bon. Donc ce qui va se faire, c'est au détriment évidemment des positions de l'art pour l'art ou autre de Flaubert ou de la critique universitaire. C'est une appropriation plus ou moins autodidactique, plus ou moins scolaire, plutôt plus que moins, on va en dire quelques mots, de la grande littérature. C'est comme j'aime un peu à dire, comment rendre la littérature, avec un L majuscule, populaire. Hein. C'est ça, finalement, qui va nous intéresser. Voilà, donc Flaubert avait évidemment protesté contre l'idéologie du référentiel, contre les pratiques d'illustration de ses romans, de ses œuvres, peu importe pour les personnes et les initiatives qui ont été prises à Rie. Cette bataille-là pour assimiler comme un palimpseste, en quelque sorte, en grattant le roman, on trouve le réel normand, le villageois. Elle a émergé 10 ans après la mort, on peut en parler aussi de cette périodisation, après la mort de Flaubert dans le journal de Rouen du 190, la véritable Madame Bovary, je passe. Et puis, pour la bonne bouche, je vous lis quand même, en 1907, donc chez les notables de province, hein, à l'époque, on pouvait lire quand même dans la Normandie médicale, puis après on va venir aujourd'hui, hein, rassurez-vous, en 1907, dans la Normandie médicale, je ne sais pas le 1er avril, sous la plume d'un certain Raoul Brunon, à propos de Madame Bovary, un matin d'octobre 1878, notre camarade Henri Dumort entra dans le réfectoire des internes à l'Hôtel Dieu de Rouen, où Flaubert était né, ayant un panier au bras. « Je vous apporte, dit-il, des poires venant d'un arbre planté par Bovary. » On fit honneur à la manifestation du camarade et on n'en parla plus. Cet incident avait piqué ma curiosité et je poursuivis Dumort de mes questions. Il y répondait de très bonne grâce. Il me raconta que sa famille habitait le village de Rie et précisément la maison où s'était empoisonnée Madame Bovary. Il me dit que beaucoup de détails du roman étaient vrais, que la pharmacie, l'auberge, les halles existaient encore. Tous ces détails me parurent intéressants. Ils donnaient des indications sur la méthode de travail de Flaubert et à mes yeux animaient le roman d'une vie particulière. Voilà. Donc, il y a l'appropriation éthico-pratique, mimétique, et c'est de ce socle-là et de ces traductions artisanales locales qu'on va parler maintenant. On, c'est toi.
Voilà.
Excuse-moi.
Alors, justement, à l'instant, dans la citation en question, il est question des méthodes de Flaubert. Alors, venons-en aux méthodes, justement. Alors, je ne suis pas du tout du champ littéraire, mais bon, ce sont des choses qui sont connues et aussi des sociologues ethnologues, et notamment on peut parler presque de méthode ethnographique de Flaubert pour l'écriture de ses romans, en tout cas d'une documentation fournie pour constituer pour l'écriture de ses romans. Et alors, évidemment, c'est intéressant aussi de resituer ça. Alors, c'est pas tout à fait la même époque, mais comme c'est continuellement présent dans l'apprentissage scolaire, on peut penser qu'à l'époque de Flaubert, c'était aussi le cas, puisque c'est une longue tradition. Il s'agit de la description des paysages. Et dans un ouvrage dans un des numéros de pratique, l'histoire de la description scolaire, de Anne-Marie Thiès. Et qui en dit long sur le style des descriptions. Alors, personnalité géographique de la France, évidemment. L'investigation descriptive se veut introspection. Mais l'anthropomorphisme scande constamment l'exposé savant. Dans la région, alors bon, la Bretagne, par exemple, expire à demi noyé dans l'Atlantique, donc anthropomorphisation. Dans la région moins dure que constitue le grès permien aux alentours de Saint-Dié, les lignes se dégagent, les montagnes s'individualisent mieux, tout en conservant leurs modelés caractéristiques. Elles se campent les unes à côté des autres dans leurs superbes draperies de forêt. On a là un mélange de, effectivement, comme le dit Anne-Marie Thiès, d'exposé savant et de personnification du paysage et de la description paysagère. Et si on fait une transposition dans un tout petit extrait du roman, c'est l'arrivée justement à Yonville-l'Abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de Capucins dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen. On quitte la grande route à la Boissière, vous pourrez y aller, c'est pas très loin de Paris en fait. d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme deux régions de physionomie distinctes. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours bordé d'un galon d'argent. Voilà, alors évidemment, on peut supposer, connaissant l'humour de Flaubert, qu'il s'agit là d'une forme de parodie, d'ironie de la description, justement. Mais en tout cas, les éléments sont là, c'est-à-dire éléments savants, on y vient. Au bout de l'horizon, on a devant soi les chaînes de la forêt d'Argueil, les escarpements de la côte Saint-Jean, rayés de haut en bas par de longues traînées rouges et inégales. Ce sont les traces de pluie, et ces tons de briques tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne viennent de la quantité de sources ferrugineuses qui coulent au-delà dans le pays d'alentour. Voilà, on a l'exemple typique d'une description à la fois savante et sensuelle, en fait, poétique. D'une forme poétique, en tout cas. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, bon, notre démonstration vise à montrer comment, en fait, il y a une forme d'encodage du paysage dans le texte, dans le roman de Flaubert, qui va progressivement, on va le voir plus loin, subir des métamorphoses, voire même une sorte d'anamorphose, pour se retrouver dans le paysage à nous.
Mais d'abord, on va revenir, si c'est pas trop vous perdre, dans la galerie Bovary. C'est-à-dire, vous avez eu des photos qui sont passées de ce dispositif où il y a 25 scènes à peu près considérées comme centrales, oui, dans le roman. Tu as peut-être un document aussi à faire passer comme ça, de ton côté. Voilà, on a un petit accordéon là bien connu qu'on trouve à Montmartre et à Lourdes, hein, des petits accordéons, avec la figuration de ces différentes scènes. Dans un vieux pressoir qui a été restauré, ça existe depuis 30 ans, il y a entre 10 et 25 000 visiteurs par an. La caractéristique, donc, c'est que le texte de Flaubert est mis en scène sous forme de paysages et de scénettes animées par des personnages, le personnage romanesque, automates miniatures. Hein, ce sont des petites miniatures de quoi, jusqu'à un centimètre de hauteur, automates. Bon, ça c'est le chef-d'œuvre de l'horloger du pied dont tu parlais tout à l'heure. Alors, je voudrais simplement vous communiquer en accélérant un tout petit peu, mais sans trop. Ce document qui est un montage personnel pour dire un mot dans le prolongement de ce que tu viens de dire, donc cette fois on est revenu dans la galerie pour dire un mot des modèles, hein. Parce qu'au fond ce que fait l'horloger bijoutier avec la galerie Bovary, ce que fait la signalétique dans le village et ce que fait le circuit Madame Bovary, il y a une soixantaine de kilomètres qui est ponctué par des étapes où les héros du roman sont censés avoir vécu. C'est une sorte de pédagogie ou de médiation culturelle, hein, grandeur nature, pour faciliter, de facto, un certain type d'appropriation de cette littérature, cette grande littérature. Alors, je voudrais simplement, pour montrer un petit peu le processus à l'œuvre, vous fournir ce document intitulé, enfin, qui est tripartite, La jeune batelière, un extrait de Madame Bovary, et puis ce qu'on trouve, qui est une scène donc de la galerie Bovary. Alors, tout ça pour parler des modèles, justement, des modèles de réappropriation de la littérature légitime dans les actes de reproduction artisanale de type culture, à peine culture moyenne, plutôt culture scolaire, variante culture ordinaire, comme dirait Michel de Certeau. Ces documents que vous avez vus, que vous avez sous les yeux encore, la galerie, relève de la combinaison, de combinatoire, de manipulation sémiotique et symbolique de plusieurs types de modèles. On ne va pas les analyser, mais je vais proposer cinq types de modèles et travailler rapidement sur un d'entre eux. On pourrait trouver des homologies de fonctionnement, de réalisation, d'imaginaire social, etc., avec la crèche, les crèches vivantes, les crèches animées. Bon. Là, ce serait une sorte de transposition de ce modèle de la crèche. D'ailleurs, l'horloger bijoutier, ça s'appelle M. Burbeau, on peut donner son nom, hein, participe à des animations de devantures de magasins à Noël ou de crèches, justement. Bon. Donc on est dans la version, la crèche, entre nous, pour aller vite, c'est une forme populaire, enfin non officielle, de la religion, si vous voulez. Hein. C'est la religion des saints, la religion du concret, du local, etc. Bon. Alors, il y aurait ce modèle de la crèche ou de l'image pieuse qui travaillerait cette logique de réappropriation locale de l'univers de la prose de Madame Bovary. Il y a également le modèle touristique, la carte postale. Hein, c'est-à-dire, chaque fois, l'invariant, si vous voulez, ce sera montrer, démontrer. Hein, montrer pour démontrer. Une espèce d'imaginaire de la médiation pédagogique, même s'il y a des enjeux touristiques ou économiques, bon, qui sont relativement mineurs. Enfin, tout ce que je dis. Bon, donc le modèle religieux, la crèche, le modèle touristique, assez grand public, voire très grand public, la carte postale. Le modèle muséal, qui est très lié au modèle scolaire, évidemment. Le modèle des musées, les musées cantonaux, les musées locaux, les musées de la vie villageoise, hein, qui se développent justement au début XXe siècle, et puis qui sont encore assez vivants, la scénographie de la vie paysanne, les tableaux vivants, les musées de pays, etc. Bon. Et enfin, le modèle religieux, pardon, le modèle muséal, le modèle scolaire. Hein, au fond, quand, je ne sais pas, vous êtes plus jeune que moi, mais lorsque on lisait dans les années 60-70, Madame Bovary, dans les petits classiques Larousse, ou dans La Garde des Michards, déjà ça n'a peut-être pas tellement changé, au fond, dans cette médiation scolaire pour accéder à ce type de littérature, le principe, c'est quand même une page de description et une illustration. Hein. Au fond, c'est une réappropriation locale et artisanale et largement autodidactique de ces modèles-là. Et puis, je crois qu'au-delà du modèle scolaire, du modèle muséal local, du modèle touristique, du modèle religieux, il y a aussi un héritage, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais qui est balbutiant pour moi en tout cas, dans l'anthropologie de la fiction ou du roman, c'est comment les littératures orales, ou les imaginaires portés par l'oralité, ont été réappropriés, ou quel héritage de la littérature écrite, le roman européen finalement, a fait de cet héritage oral. Bon, vous avez oral plus généralement de l'oralité, au sens de culture de l'oralité. Vous avez sous les yeux un montage qui est donc dans la bande du haut, un extrait, une image de l'imagerie d'Épinal, la célèbre fabrique de pèlerins, dont le thème c'est, vous voyez, la jeune batelière, le voyage à l'île d'amour, avec une dominante iconique et une dominée linguistique, avec une thématique, avec une chanson, et une thématique qui pourrait être aussi illustrée par le voyage à Citer, les barcaroles, etc. Là, j'ai pointé sur le modèle, disons, de diffusion, de colportage et de diffusion populaire. Alors, on peut dire que dans l'intersémioticité de Flaubert, il y avait peut-être, entre autres, en tout cas pour Emma, elle rêve à des moments, quand elle va chez la mère Rollet, chez la nourrice, à l'almanach des colporteurs et aux images qu'il y a sur cet almanach. Donc c'est des univers culturels qui sont présents dans Flaubert, donc, du côté de la polyphonie des références culturelles. Donc Flaubert va textualiser et ironiser, évidemment, par rapport à ces versions romantiques et très affectives, sans doute, pour lui. Ce furent trois jours, alors c'est la troisième partie, chapitre 3, ce furent trois jours pleins, c'est quand elle décide de rester à Rouen avec Léon. Hein. Ce furent trois jours pleins, exquis, splendides, une vraie lune de miel vers le soir, j'ai fait une coupure, hein, Vers le soir, il prenait une barque couverte et allait dîner dans une île. Une fois la lune parue, alors ils ne manquèrent pas à faire des phrases, trouvant l'astre mélancolique et plein de poésie. Même elle, Emma, se mit à chanter un soir, t'en souviens-t-il, nous voulions. Bon, Léon, par terre à côté d'elle, rencontra sous sa main un ruban de soie. Le batelier l'examina et finit par dire, ah, c'est peut-être à une compagnie que j'ai promenée l'autre jour. Elle évoque le nom de Rodolphe qu'il a abandonné, qu'il a largué, comme on dirait aujourd'hui. Bon, vous voyez, donc, textualisation, ironisation, parodie, évidemment. Et, par contre, on va retrouver dans la galerie Bovary aujourd'hui, hein, à 1h30 d'ici, ce que vous voyez là, qui est évidemment partie de la reproduction, c'est-à-dire cette scène-là, qui est démarquée de ce passage, qui est plus long dans le roman, de Madame Bovary. Et on voit bien qu'il y a des phénomènes de désécriture, hein, au sens où dans la galerie Bovary, l'univers parodique ou ironique de Flaubert a disparu. Et il y a presque un court-circuitage là de l'écriture flaubertienne et une espèce d'appropriation littérale du texte, en la débarrassant de ce qu'il pourrait avoir de désenchanteur. Et on retrouve un peu l'univers de l'imagerie populaire d'autrefois. Mais cette fois, pas sous forme d'image, sous forme d'un théâtre d'automates miniatures. Voilà sur cette petite démonstration sur la fabrique d'un accès à la littérature selon des modèles qui sont extrêmement polyphoniques et peu savants. C'est à toi.
On revient.
Tu étais parti à Citer.
Il y a
pire.
On pourrait parler de. Oui, on peut dire qu'il y a une textualisation du paysage par Flaubert, une textualisation de fragments de réel, on l'a vu par le paysage. On ne va pas du tout s'attarder sur des personnages, parce que c'est pas le choix qu'on a fait pour aujourd'hui.
Ils sont centraux, mais on a décidé de ne pas en parler.
Et là, donc, dans la galerie, on a quoi? On a une sorte de mise en page muséale de la fiction. Mise en page pourquoi? Parce que dans la salle principale du vieux pressoir, il y a effectivement une exposition chronologique des scénettes du roman, donc on fait le tour. Il y a même une cordelette pour séparer le public de la fiction. Et en fait, on a comme un livre qui serait ouvert à toutes les pages. Un livre illustré, on l'a vu, avec cette logique de l'illustration est presque comme un livre d'images pour enfants. Parce que, donc, ce qui est très frappant, ça ne nous a pas frappé d'un premier coup d'œil, mais en y revenant souvent, on s'aperçoit que le texte de Flaubert, qui est écrit, des extraits sont écrits, on voit sur les photos qui circulent là, des extraits sont écrits sur des petits panneaux qui sont sous les scénettes et qui commentent les scénettes. En fait, le texte est rabattu à un statut quasiment de légende. Hein. Ce qui compte, ce qui est valorisé, ce qui est montré, ce qui est central, c'est la figuration plastique, imaginaire aussi, bien sûr, du facteur d'automate, de l'horloger, avec tout ce qu'elle suppose, évidemment, de stéréotypes et de mémoire collective. Jean-Marie vient d'en parler, de tout ce qui trotte dans nos têtes d'anciennes écoliers. Donc on a, premier temps, textualisation du paysage, deuxième temps, mise en page muséale de la fiction, et enfin, donc, la fiction va sortir du musée, va sortir de la galerie, du lieu sacré en quelque sorte, parce que il faut y aller, c'est quasiment un lieu sacré, c'est quasiment un peu, ça ressemble un peu à une crypte, il y a une petite fontaine, c'est sombre, c'est silencieux.
C'est pas la grotte de Lourdes, mais enfin, c'est un peu le palais des mille et une nuits, et tout est miniaturisé, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est très important pour produire un effet de fétiche, enfin une aura un peu de changement d'échelle qui... Bon, dans les Strauss-Parles, enfin, mais qui joue assez efficacement quand même, si on veut coopérer évidemment.
Oui, et pour rajouter encore à cette dimension scolaire, de doxa scolaire en quelque sorte, l'inventeur du musée fait la visite guidée avec tous les groupes, avec les visiteurs, et donc il raconte, il commente en fait le texte de Flaubert et sa réalisation plastique. Hein, il joue en fait en quelque sorte au maître d'école.
Oui, hein. Oui, exactement, oui.
Donc avec des petites remarques rigolotes et parfois graveuses, mais enfin bon, on n'en dira pas plus.
Ça dépend sur le public, il y a beaucoup d'écoles, enfin de collèges ou de lycées, des scolaires qui visitent, ou des clubs de troisième âge. Bon.
Et enfin, quand le roman sort du musée, donc, et va s'égayer dans la campagne. Alors là, on est donc dans ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le circuit mis en place par...
Voilà, je vous fais passer en photocopie une partie du dépliant. Le tour du roman en 15 étapes.
Et là, on est dans une troisième opération, nous semble-t-il, et presque une sorte de retournement, non pas d'inversion, mais de retournement, qui est une forme d'encodage de la fiction dans la réalité locale, dans le paysage. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de fictionnalisation du paysage. La fiction, donc, s'ancre, s'insère, s'inscrit dans le paysage, avec évidemment des images quasiment d'épinales, mais grandeur nature et matérialisées, que sont... le château de Rodolphe, la maison du notaire, la vitrine du pharmacien Homais, qui est dans le village, enfin, en tout cas, le lieu identifié et signalé dans le village.
La maison du conducteur diligence, voilà, dans notre village.
La Vaubyessard, où fut donné le bal, le fameux bal où Emma s'est pâmée et dont elle gardera le souvenir nostalgique tout le reste de ses jours, etc. Donc on est vraiment dans une sorte de condensation entre le mythe littéraire, universel, et cette forme, on peut dire, de légende locale.
Jean consistant à penser qu'effectivement Flaubert s'est inspiré de faits divers tragiques qui s'est déroulé en 1852 ou 3. Enfin,
voilà.
Ah, t'as fini toi déjà.
Oui, voilà. Bon.
Est-ce que j'ai 4 minutes pour conclure?
Tout à l'heure.
Bon, et puis donc.
Vous avez un train à prendre, c'est ça?
Oui, mais ça, c'est hors micro. Les auditeurs n'ont pas. Oui, on sera obligé d'essayer de reprendre le train. Pour aller vers l'Orient. Enfin, mais ça va être un Metz, c'est moins exotique. Oui, trois éléments de conclusion par rapport à ce que j'ai essayé de vous dire rapidement. En termes de modalité d'appropriation d'une œuvre d'art, la lecture scolaire jusqu'au baccalauréat va se poser le problème du paysage, je prends cet exemple, dans le roman. Relever les éléments qui forment le paysage dans le roman. La lecture savante, lecture de l'université, lecture d'école normale supérieure, va évidemment changer de registre et essayer de se proposer à penser le roman comme paysage. Paysage intérieur, paysage état d'âme, paysage onirique, etc. Bon. Ce qu'on essaie de faire quand on est à Rye comme terrain pour ethnographe, c'est d'adopter une position ethnographique ou anthropologique un peu différente, et c'est d'admettre que le paysage est un roman. Tous les paysages sont habités par les toponymes, sont habités par des légendes, bien entendu, et là, ce paysage-là, ce pays-là, est habité par un roman. Le paysage est un roman. Je ne fais que reprendre au fond le programme que traçait Michel Lévy, c'est pas étonnant si c'est un homme de lettres, un monologue. Dans la règle du jeu 4, Lévy écrit un petit article qu'il avait publié en hommage, enfin un petit article en, en, longueur, si je puis dire. En hommage à Lévi-Strauss, il y a une trentaine d'années, Miroir à Pèlerin, qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, quitte le terrain de l'art pour se mêler à la vie, c'est bien. Bon. Mais il y a mieux encore. Parfois, ce qui est issu du cerveau d'un romancier rencontre un tel crédit qu'on finit par oublier à peu près la nature largement, sinon tout à fait fictive, du thème de départ. Ce qui est le cas, plus ou moins ici. L'endroit qui était le théâtre supposé d'une action plus ou moins imaginaire, inventée de toutes pièces ou empruntée à la tradition, se mue alors en un lieu hautement historique, comme si cette action devenue vraie plongeait maintenant de solides racines dans la réalité topographique et la transfigurait. Bon. Donc c'est ce changement de registre, au fond, que j'ai moi-même d'ailleurs opéré, parce qu'en tant que jeune agrégé, il y a très longtemps, quand je suis allé, parce que je fais une thèse sur Flaubert aussi, à Paris, comme ça, je trouve ça débile, nul, kitsch, enfin, j'ai rien vu, j'ai rien compris. J'étais habité par moi-même alors, c'est-à-dire par le légitimisme académique le plus standard, et donc je n'en avais rien fait. Et ce travail, nous le menons dans le cadre du laboratoire d'anthropologie où nous sommes associés, dirigé par Daniel Favre, qui est directeur d'études ici, et qui dirige une série de recherches sur les maisons littéraires et les maisons d'écrivains et les sites littéraires comme lieu de mémoire. Donc il me dit, mais Jean-Marie, va donc à Paris. Je lui dis, mais tu m'ennuies, qu'est-ce que j'allais faire à Paris, c'est nul. Puis il dit, attends, tu mets des lunettes d'anthropologue, tu vas le considérer autrement. Voilà, donc ça c'était le déplacement. Deuxième conclusion, à propos de cette appropriation locale, villageoise, ordinaire, pourrait-on dire, qui transforme, donne à voir la littérature selon des logiques d'esthétique ou d'éthique même, disons, grand public ou populaire. Quelles sont les conditions, pour finir très rapidement, à l'appropriation non experte d'un bien très légitime? C'est évidemment de repousser, refouler, censurer, ignorer l'auteur, la figure de l'autorité autoriale et de l'autorité des critiques. Les Flaubertiens, dont j'étais ou je suis, ne vont pas à Paris, et les producteurs du circuit, de la galerie, de la signalétique dans le village ne s'adressent pas aux experts. Bon. Donc c'est une des conditions, la mise, l'éloignement de Flaubert et des autorités dans le champ pour qu'il y ait une appropriation hétérodoxe, évidemment, par rapport aux critères de Flaubert et de la littérature universitaire, selon ces modalités-là. Même logique dans la dominance de l'iconique par rapport à la linguistique, même logique dans la désécriture de Flaubert, parce que autant Flaubert est l'exemple type de la polyphonie, autant Harry en monologise, hein, c'est-à-dire qu'on transforme le littéraire en littéral. Au fond, on transforme l'art en artisanat ou la romance, le roman en romance. Bon, mais cela est, c'est dans ce sens que ça nous intéresse. Troisième et dernière conclusion, ce n'est pas pour faire plaisir à personne, ni à Flaubert, ni à l'académie ou à l'université, c'est au fond quand même paradoxalement une sorte de triomphe de Flaubert, parce que, sous au moins deux aspects, comme l'a dit Corinne, au fond, le mythe d'Emma, il est extrêmement présent, et on pourrait parler d'une sorte de bovarisation du paysage. Hein. Donc ça, c'est quand même le triomphe de l'écriture de Flaubert. Et le deuxième triomphe de l'écriture de Flaubert, quoi qu'ils en aient, quoi qu'ils sachent ou pas, c'est que c'est le triomphe de l'hypotypose. C'est le triomphe de l'hypotypose. Qu'est-ce que l'hypotypose en rhétorique ? Permettez d'être pédant. L'hypotypose, donc, selon, par exemple, le traité des discours de Fontanier, l'hypotypose peint les choses d'une manière si vive et si énergique qu'elle les met en quelque sorte sous les yeux et fait d'un récit ou d'une description une image, un tableau ou même une scène vivante. Donc, finalement, le lecteur très coopératif, bon lecteur, bon enfant, de Flaubert, à la lecture de Flaubert, Flaubert de l'hypotypos, hein, s'imagine qu'il a là sous les yeux la réalité, et donc son geste est prolongé dans cette fabrique artisanale de l'univers,
cette
matérialisation, cette concrétisation de la littérature. Voilà.